Une zone d'exclusion aérienne sert à empêcher l'aviation adverse de décoller et encore plus, bien entendu, de faire usage de ses armes. En l'occurrence, ça permet d'éviter que Kadhafi n'utilise son aviation contre les insurgés, sachant qu'il dispose de certains moyens aériens et que les insurgés, eux, n'en disposent pas. Donc c'est pour, en quelque sorte, équilibrer le rapport de force.
Avec cette intervention, dans quoi s'engagent réellement les pays de la coalition ?
Quand on rentre dans un affrontement militaire, on sait quand ça commence, on ne sait jamais comment ça finit, parce que tout simplement l'adversaire réagit, il s'adapte. Donc par exemple, si on engage des opérations aériennes contre le régime de Kadhafi, il a à sa disposition tout un tas de manières de réagir. Il peut réagir de façon directe, donc à l'encontre de l'aviation occidentale, soit par ses propres moyens aériens, en l'occurrence c'est peu probable, compte tenu de notre avance technologique. Il peut aussi réagir éventuellement avec des missiles solaires, ce qui, surtout si on devait opérer sans les Américains, serait beaucoup plus gênant. Et puis surtout, il peut réagir beaucoup plus facilement au sol par tout un tas de moyens. Et si la mission s'élargit et ne comprend plus simplement le fait d'interdire le ciel aux moyens aériens de Kadhafi, mais par exemple des frappes ciblées sur les armes lourdes que Kadhafi possède, ça peut tout à fait le conduire à adapter sa stratégie, par exemple à opérer au plus près des populations, ce qui aura pour conséquence probable que malheureusement un certain nombre de frappes pourraient les affecter également et donc causer des dommages collatéraux. Ça peut aussi le conduire logiquement à disperser ses forces militaires, éventuellement aussi à les déguiser, par exemple en quittant l'uniforme, en s'habillant tout simplement en civil, ce qui rendra pour nous, depuis les airs, extrêmement difficile d'identifier les partisans de Kadhafi et les autres, même si on peut supposer que les insurgés essaieraient de nous aider et nous donneraient du renseignement. Autrement dit, il y a tout un tas de façons de répondre. Et la réalité, c'est que quand on s'engage dans une opération de ce type, on ne sait jamais vraiment quand et comment ça va évoluer et surtout se terminer.
Cette intervention militaire de la coalition est limitée à l'air. Est-ce qu'on va arriver à un moment ou à un autre à passer sur terre ?
Rien ne permet d'être sûr qu'on ne pourra s'en tenir à une opération exclusivement aérienne. L'outil aérien offre tout un tas de possibilités, mais il y a des choses pour lesquelles il est plus adapté que d'autres. Il est en particulier adapté face à un adversaire qui dispose de moyens lourds et importants qu'on peut détecter, qu'on peut frapper. À partir du moment où votre adversaire fait le choix de disperser ses moyens, de les déguiser, en gros de passer, si je puis dire, du combat d'infanterie, et si possible dans des zones qui comprennent pas mal de civils, il devient extrêmement difficile de conduire des frappes de façon discriminante et donc d'arrêter l'adversaire. La puissance aérienne, pour parler simplement, ça marche très bien face à l'armée de Saddam Hussein rangée dans le désert, très loin de toutes les populations. Ça marche beaucoup moins bien en Afghanistan face à un adversaire qui s'est fondu dans la population. Enfin, ça peut être très utile aussi, mais c'est utile en conjonction avec des troupes au sol. Ça suppose d'avoir un excellent renseignement, qui est bien souvent en fait un renseignement d'origine humaine, ou directement vos propres troupes, ou en tout cas des éléments susceptibles de vous donner du renseignement de bonne qualité. Donc, pour l'instant, en tout cas, il s'agit bien d'opérations aériennes. Mais si jamais les choses ne devaient pas se passer aussi bien que prévu et l'opération en fait durer, on ne peut pas exclure à un moment ou à un autre qu'il y ait une opération au sol, soit une opération en fait de guerre, soit dans une deuxième phase afin de stabiliser la situation. C'est ce qui s'est passé, je le rappelle, à l'occasion du Kosovo. On a eu d'abord une campagne aérienne, ensuite un accord de cessez-le-feu à l'époque avec Milosevic et puis ensuite le déploiement d'une force de stabilisation au Kosovo. Donc on peut tout à fait se retrouver dans ce genre de situation, ce qui serait par certains aspects même un scénario optimiste, puisqu'il y a aussi un scénario pessimiste. Il nous faille débarquer des troupes au sol pour protéger les populations civiles, alors même que les opérations militaires sont toujours en cours, simplement parce qu'on n'arrive plus à les protéger exclusivement par voie aérienne.